téléphone sonne ce soir. Question sur la fin de vie après le décès de Vincent Lambert survenu ce matin au CHU de Reims. Vincent Lambert, 42 ans, infirmier psychiatrique en état végétatif, défrayait la chronique judiciaire bien malgré lui depuis 11 ans sur fond de conflit familial. 11 ans d'expertise, d'ordre et de contre-ordre autour du lit de ce patient que les médecins ont fini par laisser mourir. Ce qui n'a pas mis fin aux polémiques. Vous l'avez entendu, les parents de Vincent Lambert dénonçant un crime d'État. Ce soir, à l'heure du deuil, on ne va pas revenir sur cette tragédie familiale en tant que telle, mais sur les débats que cette affaire a provoqués depuis des années, des débats qui ont repris de plus belle aujourd'hui, avec d'un côté ceux pour qui la loi actuelle n'est plus adaptée et ceux pour qui, au contraire, il ne faut surtout pas y toucher, mais l'appliquer correctement. Alors on va rappeler précisément quelle est la réglementation en vigueur, voir notamment ce qu'il en est des soins palliatifs, des directives anticipées, ce qui nous permettra de poser la question de l'utilité ou non d'une évolution de la législation. À nos côtés pour aborder tous ces sujets ce soir, trois médecins. Le professeur Frédéric Guirimand, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de médecine palliative, vous exercez, je le précise, à la maison Jeanne Garnier à Paris. Le professeur Israël Nizan, bonsoir.
Bonsoir.
On vous connaît plus pour vos travaux sur la naissance que sur la fin de vie, mais vous êtes président du Forum européen de bioéthique. En duplex de Lyon, le député La République En Marche du Rhône, Jean-Louis Touraine. Vous êtes là, monsieur Touraine?
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes professeur de médecine, vous aussi, membre de la mission d'information sur la révision des lois de bioéthique à l'Assemblée. À nos côtés, bien évidemment, Daniel Messager de France Inter. Rebonsoir, Daniel.
Bonsoir.
Je précise qu'on appellera également au cours de cette émission le professeur Steven Loris, qui dirige le Coma Science Group du CHU de Liège en Belgique. Pour interpeller tous nos invités, 01 45 24 7000, vous l'avez compris, ce soir, nous avons changé de sujet, nous parlerons des féminicides une prochaine fois, c'est promis.
Claire Servagen, le téléphone sonne.
Et tout de suite, un premier appel, c'est Agathe, elle nous appelle de Saint-Brieuc. Bonsoir Agathe, on vous écoute.
Bonsoir, alors je souhaitais témoigner sur la réalité de la loi Leonetti aujourd'hui. Puisque mon père est décédé l'année dernière suite à l'application du protocole Leonetti, comme pour Vincent Lambert, c'est-à-dire l'arrêt de l'alimentation et l'arrêt de l'hydratation. Ce que j'aimerais faire comprendre aujourd'hui, c'est la réalité pour la personne qui subit cela et la réalité pour la famille qui voit, qui assiste en fait à un corps qui se nécrose. J'ai pas envie de dire décompose parce que c'est dur, mais enfin, on assiste à quelque chose de très douloureux qui dure très longtemps, et nous l'avons vu avec Vincent Lambert, puisque son agonie a duré 9 jours. Mon père, ça a duré 12 jours. Nous, quand on nous avait parlé de la loi Leonetti, on s'imaginait que ce serait très rapide et très doux. Or, ça ne l'est pas. Et quand on a demandé aux médecins d'accélérer la mort de notre père, puisque l'issue était irréversible, les médecins nous ont répliqué qu'ils ne pratiquaient pas l'euthanasie. Ce qui nous a paru d'une hypocrisie totale, d'autant plus que l'euthanasie, si je ne me trompe pas, ça veut dire, enfin l'étymologie signifie plutôt mort douce. Nous, nous souhaitions une mort douce, nous étions tous d'accord, toute la famille, ma mère, mon frère, on était tous prêts à ça. Et on a assisté à quelque chose d'extrêmement douloureux, indépendamment des souffrances qui avaient déjà eu lieu, parce que ça veut dire qu'on voit quelqu'un qui meurt la bouche ouverte sous les yeux de ses enfants, de ses petits-enfants. Et quand je dis la bouche ouverte, j'enjolive un peu les choses parce que je ne parle pas, enfin je vais le faire quand même malgré tout, des croûtes qui se forment dans la bouche et qu'on est obligé d'enlever, la langue qui durcit, le corps qui devient totalement émacié et le râle permanent d'un corps qui lutte pour survivre malgré tout. Donc c'est très dur à voir, même si on nous dit que le patient ne souffre pas. Moi, mon père, c'était quelqu'un de très digne, de très très soucieux aussi des autres, et qui jamais n'aurait pu, je pense, imaginer qu'on assisterait à cette horreur là.
À cette réalité.
Ce que je dénonce aujourd'hui, c'est cette hypocrisie de la loi Leonetti.
Merci beaucoup, Agathe, pour votre appel. Peut-être passer, pour commencer, la parole au professeur Guirimand, puisque vous êtes dans un centre de soins palliatifs et vous appliquez la loi Claeys-Leonetti au quotidien. Ce que nous dit Agathe, c'est la réalité ou pas?
Bonsoir, Agathe. Bien évidemment, j'entends toute la difficulté de cette situation, une situation que je ne connais pas, que la situation de votre père. Maintenant, Dans cette situation particulière, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part eu cette possibilité d'arrêter, non pas, je pense, une alimentation, parce qu'on n'arrête pas une alimentation, mais on arrête une nutrition artificielle. Il y a une nuance déjà de vocabulaire qui est importante. Et puis, c'est-à-dire que c'était quelqu'un probablement qui était maintenu artificiellement en vie, si j'entends bien la question.
C'était pas le cas.
C'est-à-dire que...
C'était pas le cas. C'est quelqu'un qui avait des lésions neurologiques irréversibles.
Oui.
Et qui, après des crises d'épilepsie à répétition, a été considéré comme perdu. Les médecins nous ont proposé d'appliquer la loi Leonetti, mais on pouvait le nourrir. À partir du moment où on a appliqué, bon, évidemment, l'essentiel, effectivement, c'est l'arrêt de l'hydratation et donc de l'alimentation.
La partie principale, quand même, sur laquelle, forcément, c'est une question après de voir exactement ce qui s'est passé, mais la loi Leonetti, la loi Claeys-Leonetti, parle bien d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, associée à des traitements analgésiques, c'est-à-dire que là, quelque part, on ne se limite pas en termes de médicaments pour s'assurer de l'absence de souffrance de la famille. Et quelque part, je pense que c'est aussi dans un dialogue singulier entre les proches et les médecins. En tout cas, c'est comme ça que nous, on pratique souvent dans les... Enfin, j'allais dire la plupart du temps, ou si possible tout le temps, dans les centres de soins palliatifs, pour, de façon conjointe, apprécier ce qui se passe là, au niveau de la personne, pour mettre en œuvre le maximum de choses, tout ce qui est possible de faire. On ne se limite pas en médicaments, en termes d'apaisement de la souffrance et de traitement analgésique, quitte à mettre la personne quasiment sous anesthésie, c'est-à-dire à un moment où elle ne ressent strictement plus rien, et c'est probablement d'ailleurs ce qui s'est passé dans la situation de Vincent Lambert.
Merci beaucoup Frédéric Guérimont. Merci Agathe. Professeur Israël Nizan, vous réagissez comment quand vous entendez Agathe ?
Je pense que c'est un peu sadique ce qui se produit là sous nos yeux et que il n'y a pas de valeur morale ajoutée à partir du moment où la décision de laisser mourir est prise entre une mort qui se produit en quelques minutes et une mort qui se produit en 12 jours. Je trouve que si on se place du côté des patients et pas des médecins, parce que c'est vrai que les médecins n'ont pas envie de faire ce genre de geste. Plutôt la plupart d'entre eux, les médecins sont éduqués à sauver la vie et à faire en sorte que tout le monde reste en vie. Donc les médecins ne sont pas demandeurs de gestes qui mettent fin au jour d'une personne. Mais je trouve que là, il y a quand même une situation extrêmement difficile où une famille assiste à une lente dégradation et je trouve que je ne vois pas où est l'intérêt, si ce n'est de respecter des grands principes que certains ont envie de respecter pour eux-mêmes et qu'ils peuvent donner dans leurs directives anticipées, mais je pense que les Français doivent avoir le droit de choisir en toute liberté, que ça, ils ne le veulent pas.
Daniel Messager.
Oui, c'est toute la complexité de cette loi. Effectivement, il y a des cas, je parle sous le contrôle des médecins, je ne suis pas médecin, où la mort survient plus rapidement. Il y a des cas où elle survient très longuement et on voit que 12 jours pour la famille, c'est effectivement très long. 9 jours pour Vincent Lambert, c'est long également. Vincent Lambert n'était pas en fin de vie, c'était quelqu'un qui avait 42 ans, donc il était quand même dans une certaine force. Et toute la complexité de cette loi, c'est que on ne dit pas qu'on va donner la mort. Dans cette loi, lorsque les médecins sont autorisés à pratiquer une sédation profonde et continue jusqu'au décès, il y a néanmoins l'intention de mort, de pratiquer une sédation profonde jusqu'au décès et d'arrêter l'alimentation et l'hydratation. On sait bien qu'au bout, c'est la mort qui va survenir. Donc il y a cette intention de mort, quelque part, tout en leur refusant de donner la mort, puisque l'euthanasie, donner la mort, ce serait pratiquer une euthanasie. Et c'est pour cela que ça dure parfois si longtemps, parce qu'on ne peut pas accélérer ce processus de mort, qui serait alors considéré comme une euthanasie. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de questions autour de ça. Est-ce qu'il faut ou non modifier la loi ? Mais quand on vit des situations qui durent effectivement aussi longtemps, j'entends bien ce que vous dites, professeur Guérimont, la personne, le patient ne souffre pas. Mais que dire de cette famille qui a assisté effectivement si longtemps à la dégradation du corps ?
On va aller à Lyon où se trouve le professeur Jean-Louis Touraine qui, lui, demande depuis un moment déjà une modification, une évolution de la loi. Jean-Louis Touraine, semaines, vous avez entendu, vous aussi, ce qu'a dit Agathe, et c'est quelque chose que vous avez déjà entendu auparavant, j'imagine.
Oui, oui, je compatis avec ce qu'a vécu Agathe, ce qu'a vécu la famille Lambert, et j'ai reçu de multiples témoignages de cette grande difficulté de subir cette agonie prolongée, parfois plus de 2 semaines, avec une déchéance du corps et des situations extrêmement, extrêmement difficiles. Et il est vrai d'ailleurs que quand nous avons auditionné il y a 2 jours le docteur Corinne Van Oost, cette médecin belge qui a écrit un magnifique livre « Médecin catholique, pourquoi je pratique l'euthanasie », nous lui avons demandé en Belgique « Est-ce que vous appliquez la sédation profonde et continue jusqu'au décès comme c'est recommandé dans la loi Claeys-Leonetti en France ?» Elle dit oui, nous l'appliquons quand c'est demandé. Mais c'est presque jamais demandé, c'est rarement demandé. C'est très rarement demandé parce que les malades veulent soit attendre le décès naturel sans que rien n'intervienne, mais sans être mis dans un état d'inconscience. En l'occurrence, quand c'est une maladie comme Vincent Lambert, ils sont déjà inconscients. Mais pour les autres malades, ils ne veulent pas être mis dans cette inconscience qui les prive de toute relation avec l'entourage. Et sinon, ils veulent qu'il y ait une injection d'un produit qui les endort, puis qui fait arrêter leur cœur, sans être obligés de subir une agonie dont ils ne veulent pas. Et je crois que c'est vraiment une question de droit du malade. Je crois que le complément législatif que nous appelons de nos voeux et qui se développera de façon inéluctable dans notre pays à un moment ou à un autre, ce complément législatif, ce sera non pas une loi pour les médecins, non pas une loi sur la fin de vie, ce sera une loi sur les droits du malade en fin de vie. Aujourd'hui, ne sont pas entendus les malades qui réclament de pouvoir dire stop à une agonie et celle-ci leur est imposée. Et il y a donc des jours et des jours de d'échéance, même s'il n'y a pas de souffrance, ce qui est très difficile à confirmer, même s'il n'y a pas de douleur ressentie, bien sûr, mais il y a effectivement un état du corps qui se délite et une période très difficile. D'ailleurs, il faut reconnaître une chose étonnante, c'est que nous avons passé la moitié du XXe siècle à faire disparaître la mort par insuffisance rénale, puisque c'est devenu maintenant une maladie non mortelle, grâce à la dialyse, grâce à la transplantation, grâce à tous les moyens modernes de traitement de ces malades. Et là, nous réintroduisons, avec ce système de suppression de l'hydratation, le déclenchement d'insuffisance rénale, et on produit cette insuffisance rénale pour provoquer la mort. C'est en définitive ce que fait cette sédation. Donc on comprend bien que c'est rarement quelque chose qui est sollicité par les malades ou les familles dès qu'elles ont été informées de ce que cela représente. Donc oui pour ceux qui le demandent, mais tous ceux qui veulent autre chose, il faut pouvoir les entendre. C'est un droit à être entendu et un droit à choisir son mode de fin de vie. D'ailleurs, 96% des Français, dans le dernier sondage Ipsos, demandent de pouvoir choisir leur fin de vie et de ne pas le subir, ne pas avoir une modalité qui leur est imposée.
Merci Jean-Louis Touraine. Frédéric Guérimand, professeur Guérimand, je voudrais quand même vous poser la question. Il ne s'agit pas du tout d'une mise en cause, mais vous qui au quotidien vivez ces situations, est-ce qu'il n'y a pas quand même des moments où vous sentez que ce temps qui passe, ces jours qui passent, c'est quelque chose de lourd et que les familles qui sont là, qui attendent peut-être le moment fatidique et qui aimeraient être autour du patient, ne sont même pas sûrs de pouvoir être là à ce moment précis. Est-ce que ça, c'est pas quand même difficile ?
C'est pas facile à accompagner. C'est pas facile à accompagner. Ça serait une gageure de dire que c'est évident. Maintenant, il y a ce processus. Déjà, si on est tous d'accord sur l'absence de souffrance à ce moment-là, qui me semble la question prioritaire. C'est que ressent le patient à ce moment-là? Il y a la deuxième considération à prendre en compte, c'est que sous sédation, notamment sous sédation profonde et continue, la notion du temps disparaît. Il n'y a plus cette durée pour le patient, en tout cas. Donc, reste la question, bien sûr, pour les soignants et pour la famille. Et comment ça s'accompagne? Et comment ça s'accompagne au quotidien dans notre médecine, dans nos hôpitaux d'aujourd'hui, ou dans nos EHPAD, ou, etc. Et là...
Vous avez des débats entre vous?
Oui, bien évidemment qu'on a ce débat entre nous. Maintenant, quelque part, entre accompagner un processus où la mort survient, j'allais dire, au cours d'une sédation, pas forcément d'insuffisance rénale, parce que ça serait quand même un raccourci. C'est beaucoup trop raccourci de dire cela, mais au cours d'un processus, j'allais dire physiologique, où la vie s'éteint alors même que le patient est en agonie, mais sédaté. Donc les questions que l'on pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe de ce moment un peu difficile de l'agonie? Faut-il supprimer l'agonie? Faut-il endormir l'agonie? Voilà. Ou faut-il respecter l'agonie? Il y a aussi un choix qui est aussi un choix sociétal. Il n'y a pas que les médecins maintenant à décider. Maintenant, quelque part, il faut aussi voir le... Pardon. Qu'est-ce qui est fait pour l'accompagnement de ces familles à ce moment-là? Comment on vit ça? Est-ce que c'est un temps qui est uniquement un temps d'attente, ou est-ce que c'est un temps qui permet, qui est hors du domaine médical, hein, qui permet, qui est un temps, qui est un temps social, qui est un temps familial, qui est un temps psychologique, etc. Enfin, il y a d'autres notions. Pourquoi la médecine serait-elle s'accaparerait complètement uniquement ce moment-là?
Israël Nizan, puis ensuite on va aller
au centre. Je ne pense pas que ce soit ni une demande des médecins, ni aux médecins de dire ce qui est bien. Pour moi, c'est uniquement un problème de liberté des individus et de droit des patients. Et j'aurais même tendance à dire que les médecins n'ont pas leur mot à dire dans ce débat, qui est un débat sociétal, qu'en revanche, laisser la liberté aux gens de décider pour eux ce qui est bon pour eux, ça me paraît une évidence. C'est quelque chose qui, comme le dit Jean-Louis Touraine, viendra de toute façon, parce que les droits individuels sont en accroissement constant. On va pas demander au médecin ce qu'il y a à faire. Je pense qu'il faut laisser le droit au patient de décider pour lui-même.
Sachant que donc il y a des propositions parlementaires pour faire évoluer les choses, il y a aussi le Comité consultatif national d'éthique qui, pour l'instant, ne souhaite pas faire évoluer la loi. Je voudrais qu'on aille au standard de France Inter et qu'on aille plus précisément en Belgique, Daniel Messager, parce que nous sommes en ligne avec le professeur Steven Lorès, qui dirige le Coma Science Group du CHU de Liège. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
On avait souhaité vous avoir en ligne avec Daniel Messager parce que vous avez eu d'abord vous êtes dans un pays dont la législation est bien différente de celle de la France, et parce que vous avez eu à connaître le cas de Vincent Lambert. Moi, j'aimerais juste savoir ce que vous inspire tous nos débats là de ce soir suite à ce décès.
Je pense qu'en effet ici le défi c'est de garder le patient au centre. Je comprends, je lis le tweet de Pape, le mouvement catholique en France, et je pense un défi, c'est d'optimiser le trajet de soins de ces patients. Donc là, je pense que, en effet, c'est une population qui est trop négligée, et il faut augmenter nos efforts pour assurer leur prise en charge, aussi bien le patient que la famille. Ensuite, comme on vient de l'entendre, j'invite chaque citoyen qui, ce soir, demain, peut être dans la même situation, dans ce lit, comme M. Lambert, mais quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que moi je veux? En Belgique, je trouve la loi est mieux faite parce qu'il y a une hiérarchie. On va demander à la famille qu'est-ce que ce patient aurait souhaité, alors c'est le partenaire, premièrement, ensuite les enfants et puis les parents. Donc ça, je pense que c'est un plus, mais vraiment, j'invite chaque citoyen à réfléchir qu'est-ce que je veux quand cela m'arrive, d'identifier une personne de confiance, un mandataire de santé, en plus de faire un testament de vie.
Daniel Messager.
Oui, vous travaillez, vous, sur des cas, vous êtes extrêmement reconnu, votre centre est extrêmement reconnu pour déterminer les différents types de comas et dire un petit peu si les personnes ont des chances de s'en sortir ou pas. Et vous travaillez énormément avec les familles, avec les questions religieuses. Comment vous adaptez justement votre échange avec ces familles qui souvent veulent maintenir le patient à tout prix, même dans cette vie artificielle dont on parlait? Est-ce que vous pensez qu'il y a une grande différence entre la France et la Belgique? Vous disiez, il y a une hiérarchie dans les personnes proches, c'est d'abord celle qui partage sa vie, et ça, effectivement, ce serait peut-être quelque chose à revoir dans la loi française. Est-ce que sur la pratique de la sédation profonde et continue, comme on l'évoquait, vous procédez aussi de la même façon?
C'est clair que c'est toujours difficile. Je pense qu'il faut éviter les extrêmes. On parle beaucoup de un droit à la vie, droit à mourir en dignité. Je pense qu'on essaye de se battre pour
une qualité de vie. Voilà, la souffrance, elle est la même, quel que ça soit en France, en Belgique. Je pense qu'il faut éviter d'aller en justice, hein, parce que là, on a encore un système qui va pousser à vraiment une polarisation, hein, alors que les familles où moi j'étais impliqué, ben, classiquement, on va agir par amour. En tout cas, c'est ce que je constate avec les familles où on était impliqué, où il faut essayer de mieux comprendre, de les informer. Les nouvelles machines, ces tests en neuroimagerie permettent à ces familles d'accepter la réalité, qui souvent est une triste réalité, qu'il n'y a pas des chances vers une vie qui était acceptable pour ce patient-là. Et donc, notre rôle, c'est celui d'un soignant qui informe quel est notre diagnostic, pronostic, quelles sont les options thérapeutiques. Et il faut accepter que c'est pas noir-blanc. Il faut vraiment tenir compte de toutes les nuances de ces différents états de conscience modifiés et que le pronostic, il y a de l'incertitude et donc on fait ce qu'on peut pour essayer de respecter le droit d'autodétermination de chaque citoyen et donc on l'invite à vraiment anticiper et mettre cela clair avec sa famille, ses amis, avant que le drame arrive.
Merci beaucoup, professeur Stephen Lawrence. Je vous arrête parce que la liaison n'est pas excellente, mais je voudrais qu'on prenne Laurent qui est dans le Calvados parce qu'il va nous poser effectivement, je pense, une question qui va dans le sens de ce que vous venez de nous dire. Laurent, bonsoir, vous êtes là ?
Bonsoir. Et
on vous écoute, Laurent.
Merci pour la qualité de cette émission. J'avais des inquiétudes et je viens d'avoir quelques réponses, notamment sur l'autorité parentale dans ces cas-là. Bien avant l'autorité conjugale. Et franchement, j'ai du mal à comprendre. Pour vous parler de mon cas perso, j'ai beaucoup plus confiance en ma femme qu'en mes parents. Mais je m'aperçois qu'en France, la question reste épineuse.
Eh ben, on va essayer d'éclaircir tout ça. Daniel Messager ?
Ce qu'il faut savoir, c'est que la famille est consultée, mais messieurs, vous êtes médecins, vous ne me contredirez pas, c'est une décision médicale. On part du principe qu'il s'agit d'une décision médicale et qu'on prend l'avis de la famille. Alors, il n'y a pas inscrit dans la loi en France comme en Belgique qu'il y a une hiérarchie et que c'est effectivement la personne qui partage l'avis
Et on a plusieurs questions sur franceinter.fr qui vont dans ce sens. À propos des directives anticipées, il y en a qui nous disent, mais j'ai eu la surprise en écoutant une précédente émission de d'entendre que les médecins n'étaient pas obligés de tenir compte de ce que les gens avaient dit. C'est vrai ou pas ça ?
Pas du tout. Aujourd'hui, depuis la loi Claeys-Leonetti, les directives anticipées sont contraignantes. Donc le numéro un, le message numéro un à faire passer, c'est la question des directives anticipées, parce que c'est ça qui va compter beaucoup plus que tout le reste. Les directives anticipées, aujourd'hui, sont contraignantes en termes de limitation de traitement, d'arrêt de traitement, de non-instauration de traitement. C'est aussi l'occasion, ces directives anticipées, d'avoir un dialogue singulier avec son professionnel de santé, avec son médecin, pour discuter de quelque chose dont on ne discute absolument jamais, qui est la question justement de la fin de vie. Que l'on soit atteint d'une maladie grave et évolutive, ou non d'ailleurs. Et donc c'est les directives anticipées qui sont prioritaires. Après, il y a la désignation de la personne de confiance. La désignation de la personne de confiance, la loi Claeys-Leonetti a éclairci les choses pour dire, ce n'est pas ce que pense la personne de confiance, mais la personne de confiance, c'est elle qui va témoigner de ce que vous pourriez penser, vous pourriez dire à un moment où vous ne pouvez plus le dire. Ça, c'est très important. Et puis après, il y a les proches. Alors évidemment, en Belgique, il y a une hiérarchie. Peut-être que c'est un plus. Mais arrêtons de dire que la loi va tout régler, tout régler. Le jour où il y a un différend familial, de toute façon, la loi ne pourra jamais le régler.
Merci.
Priorité aux directives anticipées.
Merci, professeur Guérimont. Israël Nizan.
Mais je ne me laisserai pas abuser par le gadget des directives anticipées, car il y a aujourd'hui très peu de gens qui les ont rédigées.
13% à peu près, nous dit-on, des plus de 50 ans.
Hein. Et moi qui vous parle, je me suis souvent mis devant la feuille et je n'y suis pas arrivé. Et donc, ce n'est pas facile de rédiger des directives anticipées. Et je pense qu'on sera toujours, quelle que soit la manière dont on incite les gens à le faire, on sera toujours confronté à des gens qui n'en ont pas. Donc je ne pense pas que ça soit une solution miracle. Bien sûr, je suis favorable de ce qu'on ait l'information en direct de la personne concernée, mais on se retrouvera toujours dans des situations où on ne les a pas. Et je suis très favorable, par contre, à une hiérarchie, parce que dans l'affaire Vincent Lambert, on a vu que des intérêts tout à fait contradictoires s'opposaient, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu problème. Donc si nous avions eu cette hiérarchie qui existe en Belgique, nous n'aurions pas eu d'affaire Vincent Lambert.
On va peut-être demander à Jean-Louis Touraine si, de ce point de vue-là, il estime que la loi est satisfaisante, Jean-Louis Touraine, à Lyon.
Ben, c'est une avancée de pouvoir disposer des directives anticipées. C'est très bien d'avoir cela à disposition. Il y a une limite, c'est effectivement le fait que ça ne représentera jamais la majorité des personnes qui l'ont rédigé. Ce n'est pas simple. D'autre part, on ne prévoit jamais tout. On ne peut pas, a priori, savoir à quoi nous serons confrontés dans notre fin de vie. Et donc, toutes les possibilités ne sont pas imaginables. Et puis, enfin, elles sont, comme cela vient d'être dit, opposables, c'est-à-dire contraignantes. Mais la loi a malheureusement ajouté, sauf si elles sont jugées manifestement inappropriées. Or, qui juge si ces directives sont appropriées ou non ? Ce sera l'équipe médicale qui soigne le patient. Donc, pour peu que cette équipe ne soit pas très favorable à telle application d'une modalité de fin de vie, et alors, la demande de la personne ne sera pas suivie. Enfin, bien sûr, puisqu'aujourd'hui, le droit à l'aide d'actifs à mourir n'existe pas dans notre pays, eh bien, si vous marquez dans vos directives anticipées « je ne veux pas subir les derniers temps de mon agonie si vraiment ça devient pénible, si j'ai des suffocations, si je suis dans un état de déliquescence, tout ça, je ne veux pas et je veux qu'on m'injecte un produit qui met un terme à ma vie », bien sûr, ça ne sera pas fait puisque c'est illégal. Alors, c'est illégal si on veut. En pratique, c'est quand même appliquer cette injection de produits létaux dans 1500 à 4000 cas chaque année en France. Mais malheureusement, c'est une euthanasie qui est faite par certaines équipes dans l'illégalité et sans prendre la vie du malade le plus souvent. Donc on voit bien que ce qu'il faut dans notre progrès, c'est passer d'une décision purement médicale qui a sa signification, mais qui ne devrait pas être l'alpha et l'oméga, et passer à une décision appartenant à la personne elle-même. Chacun d'entre nous doit pouvoir choisir et faire respecter son choix sur sa modalité de fin de vie, les équipes soignantes pouvant ensuite appliquer ces règles, ou si elles ne veulent pas le faire pour des raisons de conscience, demander à une autre équipe médicale de se substituer à elle pour que la volonté de la personne soit respectée. Je crois que c'est vraiment cette question de savoir si la volonté de la personne elle-même prime ou si c'est la volonté des soignants.
Merci beaucoup Jean-Louis Touraine, Daniel Messager.
Et cette volonté, elle peut être exprimée aussi par une personne de confiance. Je crois que c'est important de délivrer ce message-là aussi. Les directives anticipées, c'est très bien, mais tout le monde ne va pas remplir de formulaire. On n'est pas obligé de remplir un formulaire. Tout le monde ne va pas écrire sur un morceau de papier, parce qu'on peut le faire aussi, comme vous le disiez, Monsieur Nizan. Tout le monde ne va pas le faire, mais il faut vraiment désigner une personne de confiance, une personne de son entourage, dont on sait que celle-ci s'exprimera par sa bouche de ce que vous disiez, de ce que vous pensiez lorsque vous étiez encore en état de le faire.
J'aimerais qu'on parle aussi maintenant des soins palliatifs, parce que, professeur Guérimand, vous travaillez dans un établissement spécialisé, mais est-ce que quelle est la proportion de la population qui a véritablement accès à ces soins palliatifs en France actuellement ?
Les soins palliatifs en France, pour regarder un petit peu globalement en termes de santé publique ce que ça représente, c'est on a 600 000 décès par an en France. À peu près 60% relèvent de soins palliatifs, donc ça fait 360 000 personnes, une personne, donc 600 000 personnes, une personne toutes les minutes qui décède en France. Aujourd'hui, l'accès aux soins palliatifs, c'est au mieux de l'ordre de 150 000 ou quelque chose comme ça, 150 000, 200 000. Ça fait même pas une personne sur deux qui devrait avoir accès à des soins palliatifs.
Il y a des distorsions géographiques, il y a des inégalités, c'est ça qu'on évite.
À la fois des inégalités, et puis il y a surtout quelque part aussi la notion de la précocité de l'accès à des soins palliatifs. On sait pertinemment en termes de santé publique que là où les soins palliatifs sont efficaces, donnent un plus en termes de qualité de vie, c'est quand ils sont appliqués précocement. C'est pas dans la soins palliatifs, c'est pas la dernière semaine de vie, c'est pas la fin de vie. Les soins palliatifs, c'est bien en amont pour réfléchir avec le patient. Quels sont les souhaits du patient? Ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Qu'est-ce qui est de l'obstination déraisonnable? Savoir que les trois piliers, quelque part, de cette loi Leonetti, sur lequel on a beaucoup parlé sur l'interdit de l'euthanasie, mais il y a quand même aussi deux autres interdits qui sont absolument fondamentaux dans cette loi. C'est l'interdit de l'obstination déraisonnable, ne pas aller trop loin. Et la médecine a quelque part une certaine appétence à dépasser les limites, à aller plus loin. Et d'ailleurs, notre système de santé avec la tarification à l'activité pousse quelque part à l'obstination déraisonnable et va beaucoup, beaucoup trop loin.
Ça veut dire qu'il y a encore, ça se pratique trop dans certains établissements.
Le patient a le droit de pouvoir dire stop, voilà, réfléchir en disant stop. Et puis l'autre interdit qui est l'interdit de laisser souffrir. Et ça, c'est l'interdit fondamental qui est l'innovation qui, pour moi, est absolument fondamentale de cette loi Claeys-Leonetti. Le trépied, l'interdit de l'indifférence à la souffrance de l'autre, l'interdit de l'obstination déraisonnable. Et une fois qu'on a résolu déjà ces deux questions-là, les demandes d'euthanasie, qui sont toujours des patients en souffrance, pour ceux que je vois, diminuent de façon notable.
Daniel Messager, puis on va repartir quand même au standard.
Cette médecine qui va trop loin, est-ce qu'elle ne va pas trop loin aussi en réanimant trop? Parce qu'elle sait très bien le faire, il y a toutes les machines, il y a toutes les installations qu'il faut pour le faire maintenant, mais elle crée des vies qui demeurent des vies artificielles. Est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'elle remette ça en question?
C'est clair qu'il y a 50 ans, Vincent Lambert n'aurait pas vécu 10 ans après son accident ou 11 ans après son accident. La réanimation a fait tel progrès qu'elle produit ce genre de situation. Et je pense que les médecins doivent véritablement faire une autocritique de ce qu'ils font de leurs moyens. Est-ce que c'est pour promouvoir des situations intenables comme celle-ci? Est-ce qu'il ne faut pas aussi, dans la manière de réanimer, changer les choses? Il se trouve que dans les 10 dernières années, à ce que je sais, les choses ont beaucoup évolué de ce point de vue, et il y a, de la réserve de la part du corps médical à mettre en œuvre le grand chambardement pour réanimer coûte que coûte et à tout prix.
On repart au standard, si vous me le permettez, parce que Marie-Hélène est au bout du fil, elle est dans le Bas-Rhin. Bonsoir Marie-Hélène, je vais avoir juste une chose à vous demander, c'est de ne pas être trop longue, parce que l'émission touche à sa fin, il est déjà 19h55, si vous pouviez nous poser une question pas trop longue, bonsoir.
Bon, moi, je voudrais simplement savoir pourquoi en France, on ne sait pas, comme en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, des gens qui sont aussi intelligents et moraux que nous, quels sont les véritables freins, quels sont les lobbies qui s'opposent à cela? Voilà.
Professeur Nizan.
Je pense qu'on a un frein qui est un frein idéologique. On ne s'autorise pas en France à passer au-delà d'une idéologie qui est que c'est pas les hommes qui peuvent se mêler de donner la vie ni de donner la mort. Cette raison idéologique est défendue par des groupes extrêmement importants et puissants dans notre pays qui ont empêché la loi d'évoluer. Si bien qu'on dit aux gens, faites des directives anticipées, mais s'ils demandent qu'on mette fin à leur jour, on n'écoutera pas leurs directives anticipées parce qu'elles viennent en contradiction avec les grands principes qu'on a mis dans notre pays.
Jean-Louis Touraine à Lyon, vous êtes d'accord avec cette analyse du professeur Nizan?
Oui, je pense qu'il y a deux freins, puisque dans la population, il n'y a pas de freins. Je vous ai dit que 96% de la population était favorable. Mais il y a deux freins qui sont d'une part la hiérarchie religieuse, et j'ai dit la hiérarchie, puisque en Belgique, par exemple, les prêtres, quelquefois, demandent l'euthanasie en Belgique. Et quand on parle aux catholiques très pratiquants, tels qu'ils ont été sondés par le journal La Croix, 72% d'entre eux demandent la possibilité de choisir leur fin de vie et d'avoir accès à une fin de vie digne, selon leurs critères. Donc c'est simplement la hiérarchie elle-même qui n'écoute pas la population des fidèles, comme c'est le cas d'ailleurs pour la question de la contraception, si vous voulez. Et puis la deuxième chose, c'est que le deuxième frein, c'est parmi le corps médical, parce que c'est vrai que nous avons tous été, tous médecins que nous sommes, et nous sommes trois médecins là autour des micros, nous avons été éduqués à quelque chose, nous avons eu un moule qui nous a formés, et c'est assez difficile de remettre en question la formation initiale. Et parmi les médecins de soins palliatifs, comme le professeur Guériband, il y a effectivement des personnes à qui on a appris à dire « il faut demander aux malades de ne pas persévérer dans leur demande d'une aide active à mourir ». Et j'ai entendu plusieurs médecins me dire bah, écoutez, quand on vient voir le malade deux ou trois fois, à la quatrième fois, il s'arrête de demander qu'on lui injecte un produit. Donc ça prouve bien qu'il n'en avait pas tellement envie, vous voyez. Donc on a ici une appréciation qui est quelquefois un peu en retrait de la part du corps médical, parce que dans la tradition française, où il y a parfois un petit peu de paternalisme médical encore aujourd'hui, eh bien, c'est le médecin qui décide et le patient qui doit se soumettre, même si aujourd'hui, il y a eu un grand progrès. Et
Jean-Louis Touraine, je vais être obligé de...
tout à fait raison de le dire, un grand progrès avec le fait que théoriquement, on ne fait plus
d'obstination. Je vais être obligé de vous arrêter, Jean-Louis Touraine.
Même si encore aujourd'hui, la moitié des cancéreux reçoivent des chimiothérapies dans les
Merci
derniers jours
Merci beaucoup,
de vie,
Jean-Louis Touraine.
Même si
je suis obligée de vous arrêter parce que sinon on ne va pas pouvoir conclure. Il est déjà 19h58. Un très grand merci d'être intervenu. Je voudrais quand même qu'on donne la parole à professeur Guériband pour terminer, puisque
oui,
c'est directement.
Je crois qu'il faut sortir du débat idéologique.
Et vous avez 30 secondes.
Les demandes d'euthanasie en France, c'est 3% des patients dans les unités de soins palliatifs et ailleurs d'ailleurs. La question claire du patient que nous on côtoie tous les jours dans notre pratique quotidienne, qui est en demande d'euthanasie, c'est d'abord et avant tout la question de la souffrance. Et donc notre mission en tant que médecin, c'est d'abord de savoir écouter, comprendre, analyser cette souffrance et y répondre. La question de l'euthanasie, c'est un débat sociétal, mais la question fondamentale, c'est comment moi médecin, comment nous soignants professionnels de santé, on répond à la question de la souffrance, d'autant plus que le patient est en fin de vie. C'est pour moi, c'est vraiment ça la question centrale.
Allez, Israël Nizan, vous avez 10 secondes pour conclure et puis après ce sera terminé.
Quand on dit au patient « je ne t'écoute pas, d'ailleurs si c'est ta souffrance que je vais soigner », eh bien on ne l'écoute pas. Et je pense que effectivement, nous devons enlever de nos habits le paternalisme d'antan. C'est pas au médecin de prendre des décisions sur ce qui arrive au patient.
Merci beaucoup, professeur Nizan, professeur Guériband, professeur Touraine, là-bas à Lyon. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à Daniel Messager. Merci à tous de nous avoir appelés. Merci à Pierre Dessertaine qui m'a aidé à préparer cette émission avec Emma Ferré, Mathilde Sour, à la réalisation Claire Destacan, à la technique Loïc Frapsos et Ludovic Asselot, ici à Paris. Et merci à Claire Vuillot à Lyon pour cette liaison à distance. Merci aussi aux standardistes de l'émission.